Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, un peu sérieux, édition du 11 janvier 2018. Ça, c'est très sérieux. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Kirouac.
Bonjour.
Et Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Bonjour. Et Mathieu Tessier, en régie. Bonjour Mathieu.
C'est exact, bon matin.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Alors, je vais vous présenter une des 10 découvertes marquantes selon Québec Science.
Oh, intéressant.
Dans un premier temps.
Oui.
Et ensuite, je vais parler du déjà-vu.
L'impression de déjà-vu.
L'impression de déjà-vu. Oh. Alors, quel défi cela pose pour les scientifiques?
Ah, ça aussi, c'est intéressant.
Ça, j'ai... Oh non, c'est vrai, c'est quand on s'est préparé.
Oui, c'est ça. Exactement, voilà un exemple déjà de déjà-vu.
Et Yvan?
De mon côté, ben, je remplis une petite promesse de la semaine dernière. Alors,
oui.
J'ai lu l'article sur les 5 façons de s'entraîner en 30 minutes ou moins.
Ah oui, on n'y échappera pas.
Non, ben c'est le début de l'année, hein,
oui,
puis
oui,
tout le monde se lance.
Les bonnes résolutions!
Oui, yeah! Jusqu'à dans 2 semaines à peu près. Et mon deuxième article, c'est en fait, c'est entremêler les nouveaux arrivants et la température. Et ça s'intitule « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est divers ». Pas d'apostrophe.
Divers, sans
D-I-V-E-R-S.
Apostrophe.
D-I-V-E-R-S.
Ah, oh, intéressant. Et de mon côté, je vais vous parler d'un CPE d'inspiration québécoise, mais à Haïti. C'est vraiment une expérience intéressante et je vais vous présenter des suggestions d'activités qu'on peut faire avec les enfants l'hiver, en 2 mots cette fois-ci, dehors et à l'intérieur. Parce qu'on le voit aujourd'hui, selon la température, vaut mieux parfois être à l'intérieur avec les enfants. Alors, c'est parti!
On commence!
Alors, Monique, c'est une découverte de l'année, la première.
La première, mais ouais, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure,
non,
mais c'est une des 10 qui a le numéro 1. Alors, depuis un quart de siècle, Québec Science maintient la tradition. Alors, chaque automne, il y a un jury de chercheurs et de journalistes qui sélectionnent les 10 découvertes québécoises les plus impressionnantes de la dernière année. Alors, c'est un choix difficile et parfois déchirant parce que la communauté scientifique du Québec fourmille de bonnes idées. Alors, la preuve, c'est que je trouve toujours quelque chose à vous lire. Alors, surtout en cette année, parce qu'ils ont reçu 124 candidatures et semble-t-il que c'est un record.
Alors, ils en retiennent 10.
Ils en retiennent 10 sur les 124.
Ouais.
Mais on peut se poser la question, quels sont les critères de sélection? Alors, chaque découverte doit avoir fait l'objet d'un article paru dans une revue savante et révisé par les pairs entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2017. Il doit s'agir d'une percée ou d'une avancée majeure dans un domaine de la recherche fondamentale ou appliquée. Donc, aucune discipline n'est exclue et vous allez voir au fil des semaines que c'est exactement le cas. On est autant en sciences fondamentales qu'en médecine, qu'en sciences humaines, sociologie, anthropologie. Et bien sûr, la découverte doit marquer les esprits. Alors, le premier article que je vais vous lire, la première découverte que je vais vous présenter, c'est un article de Joël Leblanc et ça s'intitule « Coup de vieux ». Alors, Ariane Burke, par son métier d'archéologue, donc on est en archéologie, et de paléo-historienne, a l'habitude d'explorer le lointain passé de l'humanité. Mais récemment, en se penchant sur des ossements provenant des grottes de Bluefish qui sont situées au nord du Yukon, c'est son propre passé qu'elle a revisité.
Alors, oh, impression de déjà-vu.
Pas tout à fait. C'est un déjà-vécu, en fait. Ça. Alors, ça remonte au début des années 1980, se remémore-t-elle. Je commençais mon baccalauréat en archéologie et j'avais trouvé cet emploi d'été au Yukon. Alors, j'ai participé aux fouilles et les vestiges qui proviennent de là ont une valeur sentimentale pour moi. Donc, pendant cet été de découverte, à côtoyer les mouches noires, mais aussi les membres de la communauté autochtone, Vuntut Gwitnish, la future chercheuse a travaillé avec Jacques Saint-Mars, qui est un archéologue québécois qui fouillait les grottes de Bluefish pour le Musée canadien de la nature. Spécialiste de ce site, M. Saint-Mars avait observé des traces de présence humaine. Les grottes recelaient une grande quantité d'ossements d'animaux, continue Mme Ariane Burke, mammouths, chevaux, caribous, bisons, ours, etc. M. Saint-Mars avait repéré sur certains fragments des traces de découpe, indiquant que des humains étaient passés là il y a environ 24 000 ans, selon les datations effectuées. Or, à l'époque, le paradigme archéologique voulait que les Amériques n'aient été peuplées que 13 000 ans avant aujourd'hui par des groupes arrivés d'Asie centrale via la Béringie, cette grande steppe qui reliait la Sibérie à l'Alaska au plus fort de la dernière glaciation et qui est maintenant immergée sous les eaux du Pacifique Nord. Dans les colloques d'archéologie, les travaux de Jacques Saint-Mars étaient tournés en dérision et considérés comme irrecevables quand ce ne sont pas carrément ses compétences qui étaient mises en doute. Imaginez dans quel état devait être cet homme. Malgré 10 ans de débat, l'archéologue n'a jamais réussi à imposer ses théories à l'establishment. Ariane Burke ignorait à ce moment-là qu'elle le réhabiliterait 30 ans plus tard. Donc, devenue chercheuse à l'Université de Montréal, Mme Burke accueille la doctorante Lauriane Bourgeon en 2013 et lui confie le projet d'étudier les ossements de Bluefish. Malgré mes nombreux projets un peu partout dans le monde, cette idée qui était restée dans un coin de ma mémoire a refait surface. Donc, les deux femmes ont fait transporter pas moins de 34 000 fragments d'os, des réserves du Musée canadien de la nature jusqu'à l'Université de Montréal. Pendant les 3 années suivantes, l'étudiante a examiné les morceaux d'os au microscope, un par un, à la recherche de traces laissées par des chasseurs de la dernière ère glaciaire. Imaginez la patience.
Oui.
Et elle en a trouvé! Sur les 34 000 fragments, détaille Ariane Burke, 40 portaient des traces, dont 20 ont indubitablement ont été laissées par des humains. 6 de ces os ont alors pris la route pour être datés au carbone 14 par le chercheur Thomas Higham dans les laboratoires de la réputée Université d'Oxford. Verdict, le plus vieux des os était âgé de 24 000 ans.
Oh.
Donc Jacques Saint-Mars avait raison. Les humains sont arrivés en Amérique beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait. La découverte a été publiée dans la revue PLOS, P-L-O-S, One, en janvier 2017. C'est une revue très importante. Elle est citée à quelques reprises dans quelques découvertes, justement. Cette fois, qu'en pense la communauté scientifique?
Ben oui.
Bon, ils se sont relâchés un peu. Le contexte est un peu différent. Une nouvelle génération d'archéologues a émergé et d'autres sites plus vieux que 13 000 ans ont été trouvés à différents endroits du continent. Surtout, les paléogénéticiens qui ont étudié les génomes des Premières Nations s'entendent pour dire que ces peuples descendent de fondateurs asiatiques arrivés il y a bien plus de 13 000 ans. Donc, d'où le titre, la préhistoire de l'Amérique vient de prendre un coup de vieux.
Oui.
C'était donc un texte de Joël Leblanc pour la revue Québec Science de janvier-février 2018.
Merci. Alors, on s'en va à Haïti. Haïti, début emballant pour un CPE d'inspiration québécoise. C'est un texte de Jean-Thomas Léveillé, publié dans la Presse Plus le 2 janvier. Les 35 premiers enfants ont été accueillis à l'automne 2016, quand le premier des trois bâtiments qui composent le CPE a été achevé. Ils ont été rejoints en septembre dernier, donc en septembre 2017, par 45 autres tout-petits. Les enfants ne viennent pas là pour apprendre à lire et à écrire, comme c'est le cas ailleurs dans le pays, explique le professeur Samuel Pierre de Polytechnique Montréal, qui est derrière le projet. C'est un lieu de socialisation et d'autonomisation. Situé à Génie-Paillé, une petite ville de 8500 habitants dans le nord du pays, le centre porte le nom de Paul Gérin-Lajoie. Non pas que la fondation mise sur pied par l'homme politique québécois ait quoi que ce soit à voir avec sa création, mais bien parce que Samuel Pierre a une grande admiration pour lui, pour ce qu'il représente pour le Québec et pour Haïti. Pour l'instant, les tout-petits ne fréquentent le centre qu'en matinée, mais ils y seront bientôt toute la journée quand l'établissement sera en mesure de leur servir un repas chaud. En plus du sport, de la musique et du bricolage, les enfants qui fréquentent le CPE Paul Gérin-Lajoie doivent s'occuper d'une plante qu'ils ont apportée au début de l'année, a expliqué à la presse la présidente et directrice générale de l'établissement, Magali Félix, lors d'un entretien téléphonique. C'est pour leur montrer qu'il faut nourrir la plante pour qu'elle grandisse, pour leur apprendre ce qui vient des arbres, pour leur montrer qu'il ne faut pas déboiser. Quatre femmes et deux hommes ont été embauchés comme éducateurs. Il s'agit principalement de, ouvrez les guillemets, « normalistes », donc qui ont été formés à l'école normale comme jardiniers d'enfants, à qui deux formateurs venus de Montréal ont enseigné les bases du système québécois des CPE, et c'est Mme Félix qui explique ça. L'objectif du CPE est aussi de permettre aux familles, aux revenus les plus modestes, d'envoyer leurs enfants dans un milieu éducatif et de pouvoir retourner travailler dans un objectif de mobilité sociale, explique Samuel Pierre. Il en coûte 100 gourdes par mois, soit l'équivalent de 2 $ pour envoyer un enfant, pour y envoyer un enfant, alors que le prix des écoles d'enfants peut être facilement 5 fois plus élevé, ajoute Magali Félix. Le CPE de Génie-Paillé fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, la Cité du Savoir. Une école primaire s'y ajoutera sous peu et devrait pouvoir accueillir ses premiers élèves, dont certains des enfants qui fréquentent aujourd'hui le CPE, dès septembre 2018. Suivront une école secondaire et un centre de formation professionnelle, complétant le secteur scolaire du projet établi sur un site de 31 hectares donné par le gouvernement haïtien. Un secteur universitaire est aussi prévu, de même qu'un secteur agricole, avec une ferme expérimentale, des serres, des jardins, ainsi qu'un secteur de services, avec une résidence étudiante, un centre de santé communautaire et un incubateur d'entreprise.
Mais c'est incroyable, c'est vraiment une intégration totale. Ouais. C'est magnifique.
C'est formidable. C'est un beau projet.
Oui.
Ce vaste projet est le fruit du travail du groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Alors, l'acronyme, c'est le GRAHN, le GRAN. Fondé par le professeur Samuel Pierre, au lendemain du séisme dévastateur de 2010, c'est un regroupement d'architectes, d'ingénieurs, d'agronomes, d'urbanistes, d'économistes et autres professionnels d'origine haïtienne qui travaillent bénévolement. Et M. Pierre dit, nous, on a une approche de prise en main. Plutôt que de l'assistanat, il faut faire du développement. Et il affirme qu'Haïti a reçu 20 milliards de dollars d'aide dans les 30 dernières années, sans pour autant que le pays ne sorte de la pauvreté. Pour le développement d'un pays, dit-il, il faut que les gens soient éduqués. Et les gens qui porteront le changement ne sont pas les personnes qui ont 40 ou 50 ans, mais les enfants. Le GRAN rêve de créer des projets inspirés de la Cité du Savoir dans d'autres régions d'Haïti, mais comme ces projets sont financés par des dons privés, ils évoluent au gré de la générosité des contributeurs. Samuel Pierre rêve donc que les choses aillent plus vite et s'enthousiasme en disant « il suffirait qu'un gouvernement embarque ». On le lui souhaite. Alors, c'est un texte de Jean-Thomas Léveillé, publié dans la Presse Plus le 2 janvier dernier.
Alors, ça, c'était Papille et Sodome, du chanteur ou du groupe Lolé Loleil.
Ah bon?
D'Haïti.
D'Haïti, tout à fait, pour rester dans le ton.
Ils sont allés au CPE.
Et probablement, on leur souhaite en tout cas, oui, parce que c'est vraiment un beau projet. Yvan, donc.
Alors, la semaine dernière, je vous lisais un article pour vous aider à vous motiver puis à garder votre motivation dans votre nouvelle implication dans l'entraînement, parce qu'on commence une année.
Que d'enthousiasme!
Alors, ici, je vous donne 5 façons de vous entraîner en 30 minutes au moins. Et c'est dans le magazine Coup de pouce du 20 décembre, pas le 20 décembre quand même, du mois de décembre 2017, le magazine Coup de pouce n'a pas une date
non.
De cette façon-là, écrit par Amélie Cournoyer. Et ça commence avec les chaînes YouTube. Les vidéos d'entraînement diffusées sur YouTube se basent sur le même principe que les DVD d'entraînement, sauf qu'elles sont gratuites, facilement accessibles à condition d'avoir accès à Internet et que l'offre y est continuellement renouvelée. Comme il existe beaucoup de vidéos de ce genre, il faut prendre le temps de trouver celles tournées par des entraîneurs qualifiés et qui expliquent bien les mouvements. C'est pour les personnes qui désirent soit se mettre en forme ou se remettre en forme dans le confort de son foyer et qui recherchent des exercices de renforcement musculaire, d'endurance, autant que de flexibilité, avec ou sans équipement.
Et qui sont branchés sur Internet.
Oui, c'est sûr. On évite, si on est du genre à manquer de motivation ou à abandonner ses résolutions de remise en forme rapidement, je ne sais pas pourquoi on parle de ça en fait, mais où on ne s'est jamais entraîné sous supervision. Donc, lâcher lousse, c'est pour les personnes qui se sentent vraiment autonomes. Mm-hmm. Sinon, on ne fait pas ça. Mm-hmm. Deuxièmement, les applications, les apps.
Oui.
Sur les téléphones intelligents, sur les tablettes, les applis qui proposent des programmes d'entraînement de moins de 30 minutes pullulent. Et il y en a vraiment pour tous les goûts en matière de durée, d'intensité, de type d'exercice et de coût. On opte de préférence pour les applis qui offrent des programmes avec plusieurs niveaux de difficulté ou d'intensité et où les mouvements sont bien expliqués. C'est pour qui? Celui ou celle qui cherche un moyen de s'exercer à peu près n'importe où et n'importe quand, mais qui veut quand même être guidé dans son entraînement et motivé grâce à des notifications de rappel. Alors, vous recevez sur votre téléphone intelligent, « Hey, il y a une nouvelle version de l'appli sur le...
Okay. » Alors, on ne peut pas se défiler parce qu'il ne nous oublie pas. Il nous rappelle.
On peut se défiler.
Ils peuvent même nous dire, « Avez-vous bougé aujourd'hui? <C'est ça. rire> Avez-vous ouvert votre appli aujourd'hui? »
Tout à fait. On évite les applis si on ne s'est jamais entraîné sous supervision, car l'exécution technique des mouvements n'est pas toujours expliquée de façon adéquate et il y a un risque de blessure ou de douleur à long terme. La troisième façon, les défis de groupe en ligne. On ne parle pas de danse, là. Les défis lancés sur des sites web de fitness via Facebook ou par des entreprises d'articles de sport regroupent des gens qui suivront un programme d'entraînement spécifique d'une durée déterminée, une semaine, un mois, à faire tous les jours, mais à l'heure et à l'endroit qui leur conviennent. Les participants peuvent généralement rejoindre un groupe privé sur Facebook, par exemple, pour échanger leurs impressions sur leurs entraînements, les difficultés rencontrées et leurs réussites, pour partager des recettes ou des photos et pour se motiver. C'est pour qui? C'est pour les personnes qui désirent s'entraîner seules et avoir un horaire flexible tout en ayant accès à un coach ou à un motivateur ainsi qu'à un groupe de personnes qui s'encouragent. Mm-hmm. On évite si l'esprit du groupe nous rend compétitifs et qu'on risque de s'entraîner au-dessus de nos capacités pour égaler les performances des autres. On évite aussi ce genre de défi si l'on désire instaurer des habitudes d'entraînement à long terme, car ils ne durent que quelques jours. Mm-hmm. Quatrième façon de s'entraîner en 30 minutes ou moins, la course. On pourrait peut-être mettre entre parenthèses la marche. C'est simple, il suffit d'enfiler une bonne paire de chaussures de course et de courir. Et pas besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour en apprécier les bienfaits. Une étude de l'Université de l'Iowa soutient que 5 petites minutes par jour suffisent pour réduire le risque de succomber à une maladie cardiovasculaire.
Ça y est, Mathieu
vient d'entreprendre son 5 minutes.
Oui, c'est ça. Un peu de sérieux, là.
Oui, oui, il était dans mon dos, je ne le voyais pas.
Ah oui, heureusement.
C'est pour qui cette approche-là? C'est pour les personnes qui cherchent une activité cardiovasculaire d'une bonne intensité qui peut être pratiquée à peu près partout, en solo ou en groupe. On évite si on a tendance à souffrir de blessures musculo-squelettiques au dos et aux membres inférieurs, bursite, entorse, tendinite, hernie, ou l'on souffre d'arthrose ou d'arthrite notamment. Cinquième des façons de s'entraîner. Je me sens que je vois cinq.
Et dernière.
Ah, je suis essoufflée, là.
Oui, n'est-ce pas?
J'ai épuisé.
Bon, tu vois, tu as fait ton exercice pour aujourd'hui. Visite express au gym. Que ce soit un cours de groupe ou un circuit en salle, certains centres de conditionnement physique offrent en formule abonnement ou à la carte des séances d'entraînement de 30 minutes qui combinent des exercices de cardio, souvent de haute intensité et de musculation. C'est pour qui? C'est pour les personnes qui ont besoin d'être dans un gym pour se motiver ou d'un entraînement supervisé ou qui veulent bouger à l'heure du dîner à l'extérieur du bureau. On évite si, comme cette formule compense souvent la courte durée de l'entraînement par une intensité plus élevée, elle peut être déconseillée aux personnes qui ne font pas d'exercice régulièrement ou qui ont des limitations physiques. Selon le kinésiologue Denis Pedneau, on peut tout à fait espérer une amélioration de notre condition physique avec un entraînement court. Les gens pensent que c'est la durée qui compte, alors que c'est la qualité, la fréquence, plusieurs fois par semaine, et la régularité qui prime. Si l'on applique à faire chaque mouvement et chaque répétition et que l'on écourte les pauses entre les exercices, on économise beaucoup de temps. Et de cette façon, l'entraînement musculaire devient cardiovasculaire. Alors, c'est 5 façons de s'entraîner en 30 minutes et moins Alors, vous n'avez plus d'excuses.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Oui. Alors, quelques brèves avant d'aller à la pause.
Oui, alors je parle de Jeux olympiques.
Oui.
En février, en Corée du Sud. Alors, il y a ces Jeux olympiques qui débutent et il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont mises en place et qui pourraient un jour arriver dans nos foyers. Alors, on parle de drones et de robots, entre autres. Alors, les drones sont apparus dans le paysage des compétitions olympiques lors des Jeux de Sochi et de Rio. Les spectateurs risquent aussi d'en voir un peu partout à Pyeongchang, ville haute des compétitions.
À quel endroit?
Ça va, je l'ai dit une fois. Ils serviront à filmer et à mesurer la performance des athlètes, en plus d'être un moyen de surveillance. Quant aux robots, à l'aéroport international d'Incheon, visiteurs croiseront des robots qui balaient le sol ou aidant les voyageurs à trouver leur chemin. Il répond au nom de Troïka. Le robot fabriqué par la compagnie LG n'est pas plus grand qu'un enfant. Il informe de l'heure des prochains vols en 4 langues, coréen, anglais, chinois et japonais. Et si besoin, il accompagne les visiteurs jusqu'à leur porte d'embarquement.
Oh, intéressant!
Alors, toujours dans mes 5 minutes, dans le calendrier de l'après, il m'en reste quelques-unes de ceux-là.
Oui.
5 minutes de bonnes nouvelles. Le conseil du jour pour commencer l'année du bon pied. Chaque jour, adoptez ce nouveau rituel et forcez-vous à lire une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas regarder religieusement Goodness TV, le portail des nouvelles positives et inspirantes du web? Fut-il, détrompez-vous. Le conseil vient de la directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Sonia Lupien, qui a démontré qu'il existait bel et bien un lien entre stress et mauvaises nouvelles, le cerveau réagissant aux nouvelles négatives comme s'il s'agissait de véritables menaces.
Wow!
Ou bien vous nous écoutez.
Ben c'est ça, parce qu'on n'a que de bonnes nouvelles.
Oui, alors restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pause.
Semaine en mois, en année, je te cherche encore. De belle en belle, j'ai fait le tour des dizaines, des centaines, des milliers. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être les cheveux détachés. De la minute je te vois paraître. Et tiens-toi prête à te faire lever. Comme un loup love sa louve, comme un bandit couve son trésor. De mal de cœur en mal tout court, de madame à masque en émeuse armée. Je te cherche encore. L'œil ailleurs au corps toujours, amène la prochaine, me l'essayer. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être les cheveux détachés. De la minute je te vois apparaître. Tiens-toi prête à te faire lever. comme un loup love sa louve, comme un bandit couvre son trésor. De peur en peur, ça devient lourd, de peine en peine, j'en deviens athée. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé. Oh, encore, je t'ai pas encore trouvé. Non, 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 est-ce que t'es caché en quelque part? Dis-moi juste où, quand, comment, j'arrive tout de suite, je m'habille en blanc. Ah ouais, en haut, capot, corbeau, dur à dire comment c'est beau. Ah ouais, le rouge, ah ouais, la blouse, on en fait deux, pis dix, pis douze.
Alors, la chanson « Je te cherche encore » de Daniel Boucher.
Merci, Mathieu.
Oh, excusez.
On ne te cherche pas, toi, tu es déjà là.
Je suis derrière la vitre à faire mes exercices.
Et nous, et nous sommes avec toi. Alors, re-bienvenue aux émissions Les Voix de Service Magazine du 11 janvier. On continue avec Monique.
Oui, et le déjà vu.
Le déjà vu.
Oui. Alors, c'est un article de Julie Schupbach. Vraiment, j'ai des noms
qui demeurent à Pyeongchang.
Pyeongchang.
Probablement pas.
C'est un article du 3 janvier 2018 paru dans Le Devoir et il s'intitule « Le déjà-vu défie les méthodes scientifiques ». Alors, marcher dans la rue, puis d'un seul coup être saisi de cette sensation étrange, l'impression d'avoir déjà vu la scène et d'en connaître par avance les moindres détails. Le sentiment est surprenant, inqualifiable, suscitant souvent l'incrédulité. Plus de 2 personnes sur 3 prétendent en avoir déjà fait l'expérience, mais aucune théorie ne semble être en mesure de l'expliquer. Alors, c'est un petit tour d'horizon des idées scientifiques quant à la question. On commence en l'an 300. Le philosophe Saint-Augustin se questionnait déjà sur le sujet. Certains écrits parlent ensuite de communion avec les ancêtres, d'autres de rêves prémonitoires ou encore de souvenirs erronés. On doit d'ailleurs l'introduction du terme « déjà vu » au médium et philosophe français Michel Boirac en 1876. Plus récemment, c'est à la neurologue, c'est à la neurologie, de suggérer des explications. Donc, fini la subjectivité, en fait, on le souhaite, et place à l'expérimentation. Mais alors, comment étudier un phénomène irrégulier que l'on ne peut ressentir sur commande? Chez les personnes atteintes d'épilepsie, le phénomène de déjà-vu est régulièrement annonciateur d'une crise, explique Serge Villiers-Moz, neurologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Donc, cette dernière, c'est-à-dire la crise, se produit lorsqu'une trop forte activité électrique empêche le fonctionnement normal d'un groupe de neurones. Dans ce cas, la région cérébrale souvent affectée est celle de l'hippocampe, ainsi que ses structures voisines du lobe temporal. Mmh. Le lobe temporal étant les os se situant derrière les os des tempes, commente le neurologue Villiers-Moz. L'hippocampe, appelé ainsi en raison de sa forme, est l'endroit où les souvenirs sont encodés afin de les stocker à long terme dans la mémoire. Cette sensation de familiarité serait donc bien cérébrale et plus précisément liée au processus de mémorisation. Mmh. Une crise agit comme un court-circuit, on parle toujours de la crise d'épilepsie,
oui.
Agit comme un court-circuit qui pourrait libérer accidentellement de l'information stockée dans l'hippocampe et créer ce sentiment de déjà-vu. Pourtant, les observations faites par les scientifiques sont très rares et ne suffisent pas à comprendre le phénomène. Une des difficultés étant que l'hippocampe est profondément enfoui dans le cerveau. Il n'est donc pas en superficie. Mmh. Sur certains patients avec des épilepsies sévères, on pose des électrodes intracérébrale. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut observer exactement l'activité électrique de l'hippocampe. Reste donc à étudier les déjà-vus sans ouvrir le cerveau. Oui. On est alors obligé de se baser sur ce que dit le patient. Donc, encore une fois, la subjectivité. Oui. Donc, en ce sens, la recherche est en partie subjective. C'est là que les choses se compliquent pour les scientifiques qui manquent encore de méthodes satisfaisantes pour repérer le déjà-vu. Mais dans une étude d'avril 2016, parue dans la revue en ligne Plus One, une équipe franco-anglaise l'a bien rappelé. Alors, les chercheurs ont montré des objets aux participants avant de les questionner sur une éventuelle impression de déjà-vu. Ils ont, entre autres, démontré que la manière de poser la question influe sur la réponse, donc des intrants qu'il faut mieux contrôler, je pense.
Oui.
Ainsi, avec une question rétrospective, montrer un objet, puis demander au sujet s'il a une impression de déjà-vu, souvent employé dans ce genre d'études, le taux de réponse positive est plus élevé que lorsqu'on soumet une série d'objets aux cobayes en leur donnant comme consigne, une seule fois en amont, d'indiquer s'ils expérimentent une impression de déjà-vu à un moment ou à un autre de l'exercice. Les auteurs, donc, de recommander à leurs confrères ce deuxième type de questions pour étudier le phénomène. Cette étude méthodologique est bien faite, mais elle est basée sur une définition incomplète du déjà-vu, commente Art Funkhauser, psychothérapeute à l'Institut C.G. Jung de Zurich. Selon mes expériences, l'impression de déjà-vu est toujours liée à un sentiment de sursaut et d'étonnement, ce qui n'est pas le cas dans l'expérimentation faite par ces chercheurs. Si les scientifiques ne sont pas d'accord sur la définition, cela ne va pas leur simplifier la tâche. Pour notre chercheur Williamos, ce qui est appelé déjà vu est bien plus vaste que l'on peut le croire. On devrait plutôt dire un déjà vécu, sorte de souvenir qui englobe plusieurs sens, dont la vue, bien sûr, l'odorat, l'ouïe, le goût, etc.
Oui.
Donc, la recherche n'avancera pas si on veut croire que le déjà-vu est uniquement visuel, ajoute le spécialiste zurichois. Chercher à comprendre le déjà-vu comme un seul phénomène, n'ayant qu'une explication, est une cause perdue d'avance. Il faut avoir une vision plus vaste et ne pas se limiter, soutient toujours Art Funkhauser. Comme quoi, il n'est pas aisé d'étudier scientifiquement les phénomènes par nature subjective.
Non, puis en fait, si je comprends bien, une des difficultés, c'est de provoquer artificiellement ou scientifiquement
c'est ça.
Cet état-là.
Donc, trouver les bonnes questions pour pouvoir susciter. C'était donc un article de Julie Schupp-Bach dans Le Devoir du 3 janvier 2018.
Alors, je vous présente maintenant deux textes qui proposent des suggestions d'activités à faire avec les enfants. Le congé des fêtes est terminé, mais on a quand même du temps avec les enfants. Et selon la température, on peut les faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Commençons par le premier. L'art de s'inviter dans un conte, c'est un texte de Jean Siag, publié dans la Presse Plus le 3 janvier dernier. Dans le cadre de l'exposition « Tohu-bohu au pays des contes », le musée McCord a ressorti sa très belle collection de jouets, mais en créant un parcours ludique pour les jeunes qui sont invités à découvrir ou redécouvrir le monde des contes. Dès leur arrivée au musée, la quête des jeunes débute. L'argument y est tout de suite exposé. Le roi Dagobert, qui a mis sa culotte à l'envers, organise une grande fête où tous les personnages des contes pour enfants sont invités, sauf un, la fée Carabosse. Furieuse, la maligne jette un sort aux autres personnages en éparpillant des éléments propres à leur conte. C'est ainsi que sont cachés le capuchon du chaperon rouge, la harpe de Jacques et son haricot magique, les cailloux de Hansel, la boule de coquillage de la petite sirène, etc. La quête des jeunes consistera à retrouver ces éléments disséminés dans les 5 pièces consacrées à des contes emblématiques. Par exemple, dans la première pièce, qui revisite le conte « Le petit chaperon rouge », on retrouve de nombreux jouets de la collection du musée qui représentent les personnages principaux du conte. La grand-mère, une poupée de laine, le bûcheron, le petit chaperon rouge évidemment, etc. Les personnages sont parfois intégrés à de magnifiques maquettes miniatures. Dans leur recherche des objets éparpillés par la fée Carabosse, les enfants pourront retrouver dans la forêt qui mène à la maison de grand-mère les cailloux de Hansel et Gretel. Le capuchon du petit chaperon rouge, lui, sera tapi dans un petit recoin de la pièce voisine, près de la maison de la sorcière, où vous verrez de vrais, très vieux jouets de cuisine. Wow. Entre chaque pièce, de petits jeux interactifs sont mis à la disposition des jeunes, comme ce questionnaire d'ornithologie où l'on doit associer des sons à des types d'oiseaux. La visite est amusante et les jouets de la collection McCord très bien mis en valeur. On découvrira entre autres ce pigeon ramillé mécanique issu de la période des automates jouets de la France des années 20. Une poupée représentant le roi Dagobert, justement, datant des années 40, ou encore une peinture sur verre représentant le petit chaperon rouge. Au total, ce sont 150 artefacts du musée qui sont exposés. Une pièce est consacrée à la lecture d'un conte. Parfois, les guides choisissent leur histoire. Parfois, ils demandent aux jeunes visiteurs de choisir. Lors du passage de la presse, le guide Marc-André s'apprêtait à lire Max et les Maxi-monstres. C'est un livre vraiment chouette, ça. Une autre pièce joliment conçue, celle de Cendrillon, où les enfants peuvent se costumer avant d'entrer et même monter dans le fameux carrosse qui se change en citrouille. Je ne sais pas s'il change en citrouille pour vrai. je peux aller voir l'exposition, ça me motive à y aller. Honnêtement, qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans peut demander de plus? Donc, c'est au musée McCord jusqu'au 18 mars et c'est pour les enfants de 3 à 9 ans. Wow. On peut trouver tous les renseignements relatifs au musée sur le site du musée www.museemccord.qc.ca. Et c'était un premier texte de Jean Siag publié dans la presse le 3 janvier. Alors, si la température est plus clémente, 5 idées pour jouer dans la neige. Ça, cette fois-ci, c'est un texte publié le 2 janvier sur le site naitreetgrandir.com.
C'est pour en fin de semaine.
Oui, la fin de semaine qui vient. Donc, votre tout-petit n'a pas envie d'aller jouer dehors. Voici des idées de jeux qui sortent de l'ordinaire pour l'encourager à sortir. On peut faire des bulles de savon, comme en été. Avec le froid, les bulles restent plus près du sol et gèlent. C'est donc facile pour votre enfant de s'amuser à les attraper et à les faire éclater.
Wow.
C'est vraiment chouette. On pourrait
essayer ça. Je retrouve l'enfant en moi.
Qui n'est jamais si loin.
Bulle de savon.
Et la bulle de savon. Alors, on pourrait aussi faire des chasses aux pierres précieuses. Alors, on utilise du colorant alimentaire, de l'eau et un bac à glaçons. Et avec ça, on fabrique des pierres précieuses. Une fois les pierres congelées, on peut les placer dehors pour faire une chasse au trésor hivernale. Et on pourrait aussi, avec les petits, faire des constructions avec ces blocs glacés colorés. On pourrait faire une promenade avec
ça, ça en prend un peu plus.
Ça prend plus, oui, il faut sortir les bacs. Oui. Donc, on pourrait aussi faire une promenade avec les toutous. On peut proposer à notre outil d'habiller chaudement ses poupées et ses peluches pour aller les promener en traîneau. On pourrait aussi tracer un chemin dans la neige avec nos bottes à nous. On peut faire des petits, des moyens, des grands pas et ensuite on demande aux enfants de marcher ou de courir dans nos traces. Et finalement, on pourrait lire dehors. Une couverture, un chocolat chaud et vous voilà prêt à commencer votre histoire. N'importe quel livre ou magazine fera l'affaire, mais une histoire portant sur l'hiver et la neige aura sûrement plus de succès. Voilà, très court texte, mais chouette texte, publié le 2 janvier sur le site naître-et-grandir.com.
Alors, pour continuer dans les jeux d'hiver...
Oui.
Un artiste.
Oui.
Bonjour, Marie.
Mais là, notre clientèle, c'est plus les enfants, alors.
Non.
Pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Oui. Ben, il peut en avoir.
Oui, il peut,
oui,
en, il avoir.
Peut en avoir quand même. Alors, c'est un article de Guillaume Saint-Pierre dans le magazine Espace de janvier 2018. Ça s'intitule « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est divers ».
Divers, D-I-V-R-E-S.
V-E-R-S, par exemple.
Oui, parce que vraiment, ça ne fait pas divers.
Ça fait d'autres choses.
V-E-R-S, oui. Oui.
Pour certains, le froid mordant est un prétexte de plus à l'isolement. J'en connais certains. Pour d'autres, l'excitation à l'idée de jouer dans la neige est figée par le manque d'équipement et de connaissances. Mais ces accros peuvent devenir autant de raisons d'intégrer les nouveaux arrivants au Québec. Au cœur du Mont-Royal, un groupe de non-initiés rigole. Ce qui te font au pied. Du tumulte s'élève l'anglais, le français et l'espagnol. Surprenante tour de Babel en plein air. L'initiatrice de l'activité, Adrienne Blattel, supervise avec enthousiasme les apprentis fondeurs. Coordonnatrice et guide du programme de plein air interculturel. J'ai toujours lu de plein air intellectuel, puis là, je ne comprenais pas. De plein air interculturel de l'association récréative Milton Park. Cette plénériste passionnée a littéralement créé un monstre. Plus de 500 immigrants participent annuellement à ces ateliers uniques d'initiation au plein air où ils apprivoisent autant les sports que la langue. Force est de constater que jouer dehors entraîne d'étonnants résultats, particulièrement pour les expatriés foulant notre pays qu'est l'hiver. L'aventure débute en 2010. Alors qu'Adrienne Blattel propose une sortie de canot camping à une clientèle nouvellement arrivée au Canada. Les objectifs sont de faciliter leur insertion et leur immersion. On parle de canot camping. culturelle et langagière, tout en leur faisant découvrir les beautés de l'arrière-pays par les sports traditionnels.
Et évidemment, ce n'était pas l'hiver.
Non, non, évidemment.
Évidemment.
Le succès de l'excursion et de ses retombées sociales et linguistiques auprès des participants pousse Adrienne Blattel à persévérer et à tenter d'obtenir des subventions afin d'acquérir de l'équipement. De fil en aiguille, elle déniche une alliée à la mission semblable à la sienne et aux ambitions tout aussi débordantes, l'association récréative Milton Park dans le secteur McGill de Montréal. Des centaines de randonnées et de coups d'aviron plus tard, les ateliers sont si populaires que son organisatrice pourrait en donner beaucoup plus. Bien que l'accent soit mis sur l'intégration des nouveaux venus, tant les non-initiés au sport que ceux qui cherchent à converser dans d'autres langues sont les bienvenus. Entre deux coups de patin, les amitiés naissent, les réseaux se développent. Les finalités sont souvent dignes d'un dénouement de conte de fées. Certains trouvent l'âme sœur, d'autres dénichent un emploi, et tous en ressortent immanquablement avec un bagage impressionnant. Un réel engouement hivernal. Au dire de la récente lauréate du prix d'entrepreneuriat Génération Plein Air MEC, c'est Mountain Equipment Co-op, la saison blanche est la plus populaire. Le patin, le ski de fond ainsi que la raquette ont la cote chez les Néo-Québécois. Ce sont trois sports praticables en plein cœur de Montréal. Si certains ont tendance à s'encabaner, nombreux sont ceux qui ont entendu qu'il fallait bouger, profiter de l'hiver pour passer au travers. Et ils découvrent que c'est la clé, renchérit la fervente aventurière. L'un des avantages des ateliers de plein air interculturels est de permettre la découverte de l'hiver et des sports qui y sont associés de manière encadrée. Un effet de groupe y opère assurément, mettant en confiance les débutants. L'accueil, l'ouverture et l'ambiance décontractée mise en avant sont, au dire de l'enseignante en plein air, les prérequis afin de faire vivre une expérience positive au cœur du frima. Certains découvrent qu'ils ne sont guère doués pour le patin. D'autres deviennent carrément amoureux de ce qu'ils font. Un Mexicain qui a fréquenté les ateliers il y a quelques années est dorénavant un mordu des expéditions en ski de fond. S'exclave la native d'Ottawa, dont le coup de foudre avec Montréal est encore à son paroxysme. Elle finalise en soulignant que nombreux sont les participants qui sont anxieux que l'hiver se termine. Des solutions à un manque d'accessibilité? Nombreuses sont les entraves qui freinent ces nouveaux Canadiens aussi novices en plein air. Entre autres choses, les moyens financiers et les connaissances des activités et du territoire constituent des difficultés de premier ordre. L'association Plein Air Interculturel résout d'abord ces écueils, précise Adrienne Blattel. Et elle ajoute une dimension humaine à la découverte des joies de l'hiver. Elle précise que le Mont-Royal et ses sentiers, de même que la patinoire du lac des Castors, sont des joyaux notamment du fait de leur proximité.
Mm-hmm.
Parce que le transport, tout comme l'équipement, est l'une des principales problématiques qui apparaissent pour celui ou celle qui débarque dans la belle province et qui veut profiter de ses attraits naturels. En ces périodes mouvementées de xénophobie, d'extrême droite et d'inquiétude liées à l'étanchéité des frontières, les initiatives d'accueil, de démocratisation du territoire et des activités qu'il est possible d'y pratiquer tiennent la balance égale. Vivement que le seul suprémacisme blanc qui soit Vivement que le seul suprémacisme blanc qui domine soit celui de l'hiver.
Et de la neige,
et même beau, du froid.
Une jolie phrase qui termine ce texte.
Oui, c'est pour ça que je l'ai reprise.
Mais oui.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est d'hiver. Vous pouvez trouver cet article dans le magazine Espace.
Alors, s'il ne fait pas assez beau dehors, on pourrait aller jouer aux quilles avec les enfants. C'est une activité rétro par excellence, défoulante à souhait et finalement, quand on se laisse prendre au jeu, drôlement divertissante. Invitez votre famille ou vos voisins, organisez-vous en équipe et c'est parti. Hot dog, bière et musique disco en su, voilà, pour les quilles. Une petite capsule linguistique, Monique,
oui,
s'il te plaît.
Alors, a-t-on besoin de matière grasse pour graisser la pâte à quelqu'un?
On se le demande.
Plus maintenant, mais autrefois, c'était bel et bien le cas. Étrangement, cette expression familière, qui est en français moderne et synonyme de soudoyer, d'acheter et de corrompre, serait directement associée à l'Église catholique et au commerce de la graisse animale. Alors, on raconte qu'au Moyen Âge, l'Église de Paris percevait une taxe sur la vente des produits du porc. Alors, les autorités religieuses ont même organisé une sorte de marché au jambon afin de pouvoir exercer un meilleur contrôle sur les ventes. Certains marchands peu scrupuleux essayaient de soudoyer les percepteurs dans l'espoir de payer moins de taxes. Pour amadouer le représentant de l'Église, le marchand lui glissait dans la main un morceau de viande bien grasse. C'est le cas de le dire, on graissait la pâte
ben
au
oui,
percepteur.
C'est formidable.
Toujours dans mes conseils du jour pour commencer l'année du bon pied, ayez des idées qui vous ressemblent. Révisez vos attentes et soyez réalistes. Allez-vous vraiment vous entraîner 5 midis par semaine? N'est-ce pas déjà bien si vous y alliez deux fois? Surtout, adoptez des solutions qui vous ressemblent. Méfiez-vous des solutions toutes faites, avance Yarlidis Koneo, experte en conciliation travail-famille. Oubliez le copier-coller et essayez des choses qui vous ressemblent. Chaque personne et chaque famille est unique. Si vous êtes champion de l'organisation, peut-être que l'idée de cuisiner pour la semaine, le week-end, est une bonne idée. Mais si vous êtes plutôt du genre spontané, faites des courses d'avance et laissez-vous aller selon l'inspiration du jour. Apprenez à vous connaître quoi et trouvez les solutions qui marchent pour vous et non la galerie.
Merci.
alors, toujours par rapport aux Jeux olympiques en Corée, le coréen pour les nuls, lors de ces Jeux, la langue ne sera pas une barrière. Tout le monde pourra parler coréen avec l'application GenieTalk, qui traduira automatiquement des messages oraux et aux écrits en 6 langues, dans le français et l'anglais.
C'est bon.
Alors, canne à pêche, un petit mot d'enfant avant de s'en aller. Canne à pêche, selon Cathy Lise, 7 ans, c'est un bâton avec un crochet à un bout et mon papy à l'autre.
Oh, wow!
C'est sur cette note joyeuse qu'on vous laisse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier pour les liens musicaux et la mise en onde. Merci Monique. Merci,
ça fait plaisir.
Merci Yvan. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve la semaine prochaine et on vous la souhaite bonne cette semaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.